mardi 14 mai. Ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. De nouveaux ordres d'évacuation ont été émis dans le nord-est de la Colombie-Britannique en raison des feux de forêt. La presse canadienne indique qu'hier soir, c'est au tour du district régional de Peace River de le faire. Également, le feu près de Fort Nelson prend de l'ampleur rapidement. Ce matin, il s'étendait sur plus de 84 km carrés, comparativement à 53 km carrés hier. La majorité des quelques 4 700 résidents ont répondu à l'ordre d'évacuation, mais certains refusent de quitter. Le maire de Fort Nelson a entrepris de joindre directement les résidents toujours sur place. Les vents qui poussent le feu de Parker Lake vers Fort Nelson inquiètent. Aux États-Unis, l'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, revient en cour aujourd'hui et doit subir le contre-interrogatoire des avocats de l'ancien président. Alors hier, au procès de son ancien patron, Cohen a affirmé que l'ancien président lui a dit d'aller de l'avant avec le paiement pour faire taire une actrice porno, qu'il s'inquiétait pour sa campagne présidentielle de 2016 en voulant enterrer la relation sexuelle alléguée par Stormy Daniels. Selon l'accusation, Donald Trump aurait falsifié donc les comptes de son entreprise pour rembourser l'avocat. Michael Cohen a par ailleurs témoigné avoir menti et intimidé pour le compte de son patron de l'époque. On l'écoute.
Est-ce que Michael Cohen va prouver que Donald Trump lui a dû mentir? C'est assez particulier. Donald Trump, ancien président des États-Unis qui était à la tête avant d'un empire, là, l'empire Trump, n'avait même pas d'adresse courriel. Donc, on n'a rien de trace. C'est pour ça qu'on doit aller vraiment dans le détail des textos, des appels, des enregistrements, des courriels entre Michael Cohen et d'autres personnes. Comment tu veux prouver qu'il a menti au nom de Trump?
C'était plutôt notre spécialiste en politique américaine. Maintenant, la Cour supérieure va annoncer probablement aujourd'hui si elle accorde ou non une injonction à l'Université McGill à Montréal afin de permettre le démantèlement pour motif de sécurité du campement pro-palestinien érigé sur son campus depuis près de 2 semaines. Des campements de moindre envergure ont également été installés sur les terrains de l'UQAM et de l'Université de Sherbrooke. À notre antenne, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a dit se questionner sur les motivations réelles des organisateurs de ces manifestations.
Mais j'ai l'impression qu'on assiste à autre chose et que ce n'est pas parce que l'Université du Québec à Montréal est une institution publique que ça permet de dresser des barrières, de masquer des équipements de sécurité, de n'y arriver dans bien des cas que le visage masqué pour pas être identifié. Et aussi, la question doit se poser, est-ce que ces endroits-là, avec l'espèce de mystère qu'on y fait régner, ne sont pas un peu des endroits qui sont propices à une certaine radicalisation?
Et au sport, dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, l'équipe de Montréal va tenter d'éviter l'élimination ce soir à Boston. La formation montréalaise a subi 2 revers en prolongation contre Boston devant ses partisans. Alors même si son équipe se retrouve au bord du gouffre, l'attaquante Marie-Philippe Poulin ne croit pas qu'il y a beaucoup d'éléments à changer.
Maintenant, je pense pas grand-chose de différent. Je pense que les deux matchs, on a très bien joué. On a une très bonne goaleuse, on a une bonne équipe. Puis pour nous, je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer à mettre autant de lancers au filet, mettre du trafic. Je pense qu'elle prend beaucoup ses rebounds, elle est très bonne. Fait que pour nous, mettre du trafic, être devant le filet, puis continuer de jouer notre jeu. Je pense qu'il y a rien à changer exactement. Juste de continuer encore un petit peu plus fort.
Économie, les ventes dans le commerce en gros ont diminué de 1,1% en mars dernier au pays. La baisse des ventes de véhicules automobiles a freiné les ventes avec une diminution de 5,8%. Vous écoutez Cogeco Nouvelle.
FM 93. Météo.
Comme on le voit actuellement, c'est des nuages. 60% de probabilité d'averse en après-midi, maximum à 17 degrés. Vent du sud à 20 km/h. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux. 40% de probabilité d'averse ce soir. La pluie va débuter vers minuit, accompagnée de nappes de brouillard, minimum à 9. Et demain, des averses et 11.
C'est fixe.
C'est le titre
avec Jean-Claude Chilina.
C'est les petites bêtes.
Or plus, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, c'est Madame Fafard. J'ai 86 ans, moi.
OK.
Les cheveux grisonnants, les rotules par en dedans, mais beaucoup d'argent.
Ah, oh, OK. C'est bon, ça.
Faut bien rire. Hein? C'est un endroit où vous achetez des vieux bijoux, c'est ça, hein?
Oui, exactement.
Et vous achetez les bijoux de famille? Ben oui, parce que les bijoux de famille de mon mari sont en très bon état.
C'est bon, ça.
Un peu de rouille, bas kilométrage, un seul propriétaire avec légère perte d'huile quand ils sont dans une zone de turbulence.
C'est bon, celle-là. J'ai essayé de m'en souvenir.
Il faut bien rire. J'ai des pièces de monnaie à vendre. Ça vous intéresse?
Les pièces de monnaie, oui. Surtout, est-ce qu'il y a... Ils ont été bien conservés ou bien non, c'est juste pour l'argent que vous voulez les vendre?
J'ai des pièces de monnaie des années 50 puis 60 très propres. J'ai un 25 cents que j'utilise pour mes billets gratteux. Lui, il a gratté des roues de fortune, la poule aux œufs d'or puis la corde d'un premier pied. Oh, je vais être obligé de vous laisser parce que je suis dans la chambre de ma voisine dans résidence, puis elle revient de déjeuner, là.
OK, ben parfait. Bougez pas,
je vais fermer son tiroir à bijoux. On se rappelle.
Bye.
Banco Chemin de bonjour.
Ouais, bonjour. Vous achetez de l'or, vous, hein?
C'est bien ça.
Des bagues aussi?
Oui, des bagues, des chaînes, des bracelets, tout ce qu'il y a en or.
Ah ben ça m'intéresse à tabarouette. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure, vous?
À 9h aujourd'hui.
OK, parfait. Parce que ma femme, moi, elle fait sa sieste à 3h. Puis je me demandais, pour enlever une bague qui est serrée sur un doigt, là, je suis mieux que de la crème, de la vaseline ou du savon à vaisselle?
Du savon
à
vaisselle.
Savon. Oh, je te remercie. Parfait, moi, être bon pour y enlever sa bague, puis après ça, on va aller vous voir.
Pas de problème.
Merci d'être complice avec moi.
Ouais,
je te remercie de m'avoir donné le truc. OK, j'arrive tantôt. Bye-bye.
Ouais.
Bye.
Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. C'est fixe FM 93.
Réveil Rimouski à C'est fixe FM 93. La référence en information.
Voici Jonathan Trudeau.
Bon, on commence par cette crise dans le réseau de la santé sur la Côte-Nord et aussi en Abitibi-Témiscamingue.
Oui, parce que c'est vraiment pas beau, hein. Ce qu'on apprend, on prévoit que d'ici les prochains jours, il y a le tiers des lits qui seront fermés. Donc, d'ici à dimanche, on va être obligé de baisser les activités aux urgences dans les blocs opératoires. On va prendre des patients, les envoyer à Québec. On donne l'exemple même d'un patient, par exemple, qui aurait une gastro, qui aurait besoin d'une réhydratation. Ils seront pas équipés pour faire ça. Ils vont devront faire voyager 600 kilomètres aller à Québec avec les effets que ça pourra avoir aussi sur le système de santé à Québec qui est déjà évidemment fragilisé comme partout ailleurs. Et là, les médecins de la Côte-Nord sont très clairs. Hein? Ils parlent d'une crise précipitée par notre gouvernement. Blâme carrément le politique. C'est une situation qui découle de l'entrée en vigueur de la loi qui veut à terme sevrer le réseau de sa dépendance à la main-d'œuvre indépendante. Donc, pour que les gens comprennent, on est venu avec le projet de loi de Christian Dubé plafonner les tarifs qui sont payés aux agences. Ça partait d'une bonne intention, c'est-à-dire éviter les abus à la base même des agences qui, des fois, pesaient très, très fort, quatre copies, mettons, quand venait le temps de fixer les tarifs, et ultimement rendre ça moins attrayant pour les infirmières et les inciter à retourner dans le réseau public le jour où il y aura enfin une entente de signer, notamment avec la FIC, qui va donner des meilleures conditions de travail. Donc, le hic, c'est que c'est effectivement moins attrayant, beaucoup moins attrayant pour des infirmières de l'extérieur de la Côte-Nord qui acceptaient d'aller faire les quarts de travail là-bas en raison des tarifs qui étaient avantageux. Mais là, tu retires ça, tu mets ça égal partout. Il reste quoi comme incitatif? Il reste rien. Le résultat, c'est qu'on a un manque terrible de main-d'œuvre parce qu'on nous dit que là-bas, il y a 60% des postes qui étaient comblés par la main-d'œuvre indépendante. Ça représente 600 employés. Donc là, évidemment, la question, c'est on fait quoi à partir de là?
Et
là
est-ce que tu veux que je te dise que Québec est, nous murmure?
Ben, j'y arrivais
okay, dans quelques secondes. Vas-y.
J'y arrivais dans quelques secondes. Parce que c'est important de donner les deux côtés de la médaille, effectivement. Parce que je lisais ce matin Christian Dubé qui dit tout le réseau doit serrer les coudes. OK, c'est correct, mais serrer les coudes, ça donne pas plus de bras. Donc, on fait quoi? Mais c'est important de bien comprendre ce qui se passe. Et là, du côté de Québec, tu l'effleurais. Ce qu'on me raconte, c'est que semble-t-il qu'il y a un appel d'offres qui a été effectué avec les nouveaux tarifs, donc les tarifs qui sont les mêmes pour tout le monde, puis qu'il y a eu des gens qui ont appliqué, il y a des contrats qui ont été donnés. Et là, quand vient le temps de fournir le personnel, semble-t-il qu'il y a plusieurs agences qui sont pas en mesure de fournir le personnel, mais on me dit, c'est des allégations qui sincèrement sont lourdes, sont même graves, j'ai envie de te dire, on me dit qu'il y a des infirmières qui lèvent la main, qui disent, là, qui voient dans les appels de disponibilité, « Oui, c'est beau, moi, je vais y aller », mais qui, semble-t-il, ne serait pas assigné pour aller faire ces quarts de travail-là, et que le but derrière tout ça serait de faire la démonstration que le projet de loi du ministre ne fonctionne pas et de le forcer à reculer. Et je te rappelle, j'ai retracé dans les dernières minutes un communiqué qui a été émis le 2 mai dernier par les entreprises de placement de main-d'œuvre indépendante en santé qui annonçaient qu'ils vont aller devant les tribunaux pour essayer de faire déclarer invalide certaines dispositions de ce fameux projet de loi-là.
Et donc, Québec va aller aussi peut-être devant les tribunaux.
Pour les forcer à offrir la main d'œuvre,
c'est-à-dire qu'en voulant dire qu'ils n'ont pas respecté le contrat,
oui.
Québec n'écarte aucune option pour la suite, et ça peut vouloir dire peut-être aller devant les tribunaux ou pas. Mais pendant qu'on se bat entre avocats là, pour savoir qui a raison, pendant ce temps-là, on déménage des patients et on ferme l'urgence.
C'est terrible. C'est un manque de responsabilité épouvantable. Si ça s'avère, là, j'ai hâte de voir, là, ils font, tu parlais de firme de relations publiques tantôt avec Fred. Eux aussi font leur communication par le biais d'une firme de relations publiques. Donc, j'imagine qu'on aura, moi, je les ai questionnés, j'ai pas eu de réponse encore à cette heure-ci. J'imagine qu'ils nieront ça. Mais ça n'a aucun sens. Si on joue avec la santé des patients, avec l'équilibre d'un réseau de la santé pour mettre de la pression sur le politique, là, on me dit du côté de Québec, c'est mal connaître Christian Dubé de penser qu'il va reculer s'il y a des pressions comme ça. OK, mais en attendant, il va falloir trouver des solutions. Là, on me dit que bon, il y a des contrats d'urgence qui vont être donnés par les CIS, qui vont être plus flexibles, notamment sur les temps supplémentaires pour attirer plus de gens, puis on va tenter de minimiser les bris de service. Mais il reste que ça n'a aucun espèce de sens, là, ce qu'on voit là en ce moment.
Je reconnais que les agences, là, ont abusé du système, notamment pendant la pandémie, puis la rareté de main-d'œuvre leur a permis de se graisser. Pas toutes, mais beaucoup. Je comprends très bien la volonté de Christian Dubé de dire « Hey, le bar open est fermé, là, ça suffit. » Mais en même temps, il y a une réalité. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à aller travailler dans un hôpital. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à aller travailler dans une région. Faut que tu rendes ça attirant. Et moi, je te le dis, là, puis je le sais que je me répète quand je dis ça, mais m'a répété ce matin, là. Il y a au sein du mammouth de la santé, parce que l'agence n'est pas encore fonctionnelle, un noyau de technocrates, de bureaucrates, de gens qui font en sorte, d'abord, qui sont jamais allés sur le terrain de leur vie, là, et qui font des décrets, qui déterminent des appels d'offres, qui les échappent, qui recommencent, qui ont aucune préoccupation de l'impact sur la santé des gens. C'est une gang de pouvoir entre fonctionnaires de haut niveau et le vis-à-vis, dans ce cas-là, l'agence en question. Il y a des gens qui ne se font pas opérer au Québec parce qu'il y a des fonds-fonds qui n'ont aucune considération humaine, qui jouent des games pour se protéger le cul.
Et qui sont allergiques aux mots privés ou indépendants aussi.
Tout ça, peu importe. Et la préoccupation des gens, puis je le vois encore dans mes commentaires ce matin des auditeurs, là, on n'en a rien à foutre de vos débats philosophiques. On veut se faire opérer. Point à la ligne. Puis on veut se faire soigner. Écoute, là, c'est de la médecine du tiers-monde qu'on va pratiquer sur la Côte-Nord dans les prochains jours. Je veux bien les chicanes avec les agences, là. Puis je reconnais qu'elles ont... Puis c'est pas une bonne idée de fronter ça puis de penser que le ministre va se mettre à genoux parce que tu t'en vas devant les tribunaux. Tu sais, on n'est pas cave, là. Mais entre-temps, il se passe quoi? Puis comment ça se fait qu'on en arrive là aussi? Ça, c'est l'autre question.
D'autant plus, puis tiens, normalement, tu fais le lien de mes différents sujets. Je vais le faire moi-même cette fois-ci.
Mais non.
D'autant plus que... À la lumière de ce qu'on voit dans le journal depuis quelques jours, le dossier sur le nombre, sur le salaire des fonctionnaires, sur le nombre de dirigeants, d'autant plus donc qu'on a l'impression que on paye toujours plus pour davantage de monde sans avoir plus de services. Parce que ce matin encore, on nous parle du nombre, là, c'est les fonctionnaires fédéraux qui gagnent plus de 200 000 $. Hier, c'est les gestionnaires, notamment, dans le réseau de la santé. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on offre des bons salaires avec ça. On devrait pas s'offusquer de ça. On se doit d'offrir des salaires compétitifs et c'est correct. J'ai aucun problème avec les millions de la Caisse de dépôt, avec les 750 000 à la Top Gun de Santé Québec, le 500 000 pour Hydro-Québec ou du 300-400 000 pour gérer les plus gros hôpitaux. Je vis très bien avec ça. Même si, évidemment, c'est particulier de voir des gens gagner, autant de gens vont gagner plus que le premier ministre. Mais le problème, le véritable problème, le gros problème, c'est de voir le nombre de postes de gestionnaires très bien payés qui augmentent de façon continue, mais de jamais voir les résultats. Et là, on peut parler de la santé, mais on peut parler de d'autres, de toutes sortes de dossiers. Tu sais, le contribuable, puis je pense qu'on le sent de plus en plus,